Chapitre 2. Téléphone. Il se retourna, attrapa un oreiller, se le colla sur l'oreille. Téléphone. Il rejeta l'oreiller, remonta plutôt les couvertures. Téléphone. Grognement. Il ouvrit un œil à contre-cœur. 2h32. Bordel de... Il abattit une main hors du lit, attrapa maladroitement le téléphone et approcha le combiné de son oreille. Quoi ? Toujours de bonne humeur, à ce que je vois. Bobby Dodge, dernière recrue de la police d'État du Massachusetts, grogna plus fort. « C'est seulement mon deuxième jour. Vous n'allez pas me dire qu'on m'appelle dès le deuxième jour, hé hey !»
Ses neurones se mirent à fonctionner avec un temps de retard.
« Une seconde. Tu connais l'ancien hôpital psychiatrique de Mattapan ?» demanda Didi Warren de la police municipale de Boston.
« Pourquoi ?»«
On a une affaire. »
« La police municipale a une affaire, tu veux dire.
Tant mieux pour vous, je retourne me coucher.
Tu as 30 minutes pour être là. »
« Didi !»
Bobby se redressa laborieusement, réveillé malgré lui, et cela ne le faisait pas rire. Didi et lui se connaissaient depuis des lustres, mais 2 heures du matin, c'est 2 heures du matin.
« Si tu veux bizuter un nouveau avec tes copains, prends-le dans ton service. Je suis trop vieux pour ces conneries. »
« Il faut que tu vois ça, » répondit-elle simplement.
« Que je vois quoi ?»«
30 minutes, Bobby. N'allume pas la radio, n'écoute pas nos fréquences. J'ai besoin que tu vois ça, l'esprit vierge. »
Il y eut un silence. Plus doucement, elle ajouta. « Serre les dents, Bobby. Ça ne va pas être joli. » Et elle raccrocha. Bobby Dodge avait l'habitude d'être tiré du lit. Il avait servi près de 8 ans comme tireur d'élite dans les forces spéciales de la police d'État du Massachusetts, d'astreinte 24 heures sur 24 et inévitablement en intervention la plupart des week-ends et jours fériés importants. À l'époque, ça ne le dérangeait pas, il aimait le défi, s'épanouissait dans un corps d'élite. Mais 2 ans plus tôt, sa carrière avait déraillé. Bobby n'avait pas simplement été appelé sur une mission, il avait tué un homme. L'administration avait fini par juger qu'il s'agissait d'un usage légitime de la force, mais rien n'était plus pareil. Il y avait 6 mois de cela, quand il avait démissionné des forces spéciales, personne n'avait protesté. Et plus récemment, quand il avait été reçu au concours d'enquêteur, tout le monde était tombé d'accord. La carrière de Bobby avait bien besoin d'un nouveau souffle. Enquêteur à la criminelle depuis 2 jours, il s'était donc déjà vu confier une demi-douzaine de dossiers en cours, mais rien d'urgent. Juste de quoi se mettre dans le bain. Quand il aurait prouvé qu'il n'était pas le dernier des crétins, on lui permettrait peut-être de mener une enquête pour de bon. Ou alors il pouvait toujours espérer attraper une affaire au vol, avoir la chance d'être l'officier d'astreinte tiré du lit sur un gros coup. Dans la police, on dit pour plaisanter que les meurtres ne se produisent qu'à 3h05 du matin ou à 16h50, pile poil au bon moment pour que l'équipe de jour se lève tôt et veille toute la nuit. Les coups de fil nocturnes faisaient clairement partie du boulot. Sauf qu'ils étaient censés provenir d'un collègue de la police d'État et pas d'un enquêteur de la police municipale de Boston. Bobby tiqua à nouveau, chercha à comprendre. En règle générale, les enquêteurs de Boston avaient horreur de convier des officiers d'État à leur petite fête. En outre, si un agent de la police municipale pensait sincèrement avoir besoin de l'expertise de la police d'État, son supérieur se mettrait en relation avec celui de Bobby, et chacun agirait avec toute la transparence et la confiance auxquelles on peut s'attendre dans ce genre de mariage arrangé. Mais Didi l'avait appelé personnellement, ce qui conduisit Bobby à supposer, pendant qu'il enfilait son pantalon, se débattait avec une chemise à manches longues et se passait de l'eau sur le visage, que Didi n'avait pas besoin de l'aide de la police d'État. Elle avait besoin de son aide à lui. Et cela ne lui disait rien qui vaille. Dernier arrêt devant sa commode, à la lueur de la lampe de chevet. Il trouva sa plaque, son bip, son Glock 40 et, arme de prédilection de l'enquêteur en mission, son mini-dictaphone Sony. Il jeta un œil à sa montre. Didi lui avait donné 30 minutes, il y serait en 25. Ce qui lui laissait 5 minutes de rab pour comprendre ce que c'était que ce bordel. Depuis le petit immeuble de Bobby à South Boston, Mattapan était tout droit par l'I-93. De 3 à 5 le matin, c'était probablement les 2 seules heures de la journée où l'A-93 n'était pas un serpent saturé de véhicules. Ça roulait bien. Bobby prit la sortie de Granite Avenue et tourna à gauche dans Gallivan Boulevard qui rejoignait Morton Street. Il s'arrêta à un feu à côté d'une vieille Chevrolet. Les occupants, deux jeunes noirs, examinèrent sa Kronvik d'un air entendu. Puis ils lui décochèrent un regard aussi glacial que possible. Bobby leur répondit par un salut joyeux à sa manière. À la seconde où le feu passa au vert, les gamins prirent un virage à droite très sec et déguerpirent, écœurés. Encore un grand moment pour la police de proximité. Des quartiers résidentiels succédèrent aux galeries commerciales. Bobby passa des petites rues engorgées d'immeubles à deux étages où chaque bâtiment paraissait plus fatigué et plus décrépit que le précédent. Ces dernières années, d'immenses secteurs de Boston avaient connu un regain de vitalité et sur lesquels les logements sociaux avaient laissé place à des résidences de standing. Les entrepôts à l'abandon se transformaient en palais des congrès. Toute la ville subissait un réaménagement stratégique et esthétique pour s'adapter aux caprices du grand projet d'autoroute souterraine. Certains quartiers y avaient gagné. Pas Matapan, manifestement. Encore un feu. Bobby freina, consulta sa montre. 8 minutes d'avance sur l'horaire. Il tourna à gauche, contourna le cimetière de Mount Hope. Sous cet angle, il put enfin voir se profiler par la vitre latérale l'immense terrain vague qu'était devenu l'hôpital psychiatrique de Boston. Luxuriant espace vert de 80 hectares en pleine ville, le site était à l'heure actuelle le terrain aménageable le plus farouchement convoité de l'État. Et parce qu'il avait accueilli un asile d'aliénés centenaires, c'était aussi un des endroits les plus sinistres du coin. Juchés au sommet de la colline, deux bâtiments de briques en ruine faisaient de l'œil au voisinage avec leurs fenêtres brisées d'aimante. Des chênes et des hêtres immenses, démesurés, griffaient le ciel de la nuit et leurs branches dénudées dessinaient des silhouettes de mains noueuses. L'histoire voulait que l'hôpital ait été construit sur un terrain boisé pour fournir un environnement paisible aux patients. Plusieurs décennies de bâtiments surpeuplés, d'étranges hurlements nocturnes et deux meurtres plus tard, les voisins parlaient encore de lueurs qui apparaissaient sans raison au milieu des ruines, de gémissements à vous glacer le sang qui s'échappaient de sous les murs de briques écroulées, d'ombres fugitives aperçues entre les arbres. Jusqu'à présent, aucune de ces légendes n'avait découragé les promoteurs. La société Audubon avait obtenu une partie du terrain, dont elle avait fait une réserve naturelle très prisée. Un gros chantier était en cours pour le tout nouveau laboratoire de l'Université du Massachusetts, et Matapan bruissait de rumeurs sur des projets de logements sociaux ou peut-être de nouveaux lycées. Le progrès était en marche, même dans les asiles psychiatriques hantés. Bobby tourna au bout du cimetière et repéra enfin l'endroit. Là, dans le coin gauche du site, d'immenses faisceaux de lumière jaillissaient entre les hêtres squelettiques, repoussaient la nuit dense et sans lune. Encore des lumières, petites têtes d'épingles rouges et bleues qui zigzaguaient entre les arbres, de nouvelles voitures de police qui gravissaient à toute allure la route sinueuse vers un coin de la propriété. Il s'attendait à voir apparaître les contours de l'ancien hôpital, une ruine de 3 étages relativement trapue, mais les voitures de patrouille prirent un virage et s'enfoncèrent davantage dans les bois. Didi n'avait pas menti. La police de Boston avait une affaire, et à en juger par la circulation, ce n'était pas rien. Bobby acheva de contourner le cimetière. Avec 1 minute d'avance sur l'horaire, il franchit le portail noir entrouvert et se dirigea vers les ruines sur la colline. Il tomba presque tout de suite sur le premier agent en faction. Un policier municipal, debout au milieu de la route, vêtu d'un gilet de sécurité orange et armé d'une puissante lampe torche. Le gamin paraissait à peine en âge de se raser. Il arriva cependant à prendre un air mauvais très réussi en examinant la plaque de Bobby, puis émit un grognement méfiant lorsqu'il s'aperçut que Bobby appartenait à la police d'État.
« Sûr que vous êtes au bon endroit ? » demanda-t-il.
« Aucune idée. J'ai tapé « scène de crime » sur ma pie, ça m'a sorti ça. »
Le gamin le regarda sans comprendre. Bobby soupira.
« J'ai été personnellement invité par le capitaine Warren. Si ça vous pose un problème, voyez avec elle. »
« Le commandant Warren, vous voulez dire ?»«
Commandant ? Bien, bien, bien. »
Le gamin lui rendit ses papiers sans ménagement. Bobby gravit la colline. Le premier bâtiment à l'abandon se profila sur la gauche. Les multiples carreaux des fenêtres lui renvoyèrent des reflets dédoublés de ses phares. La structure de briques s'affaissait sur ses fondations, les grandes portes étaient cadenassées, le toit complètement désintégré. Bobby tourna à droite, passa un deuxième bâtiment plus petit et plus délabré encore. Les voitures s'entassaient maintenant au bord de la route, garées pare-choc contre pare-choc. Les véhicules des enquêteurs, le fourgon du légiste et les techniciens de scène de crime se disputaient les places. Mais les projecteurs le hélaient à bonne distance de là. Une lueur lointaine dans les bois embrumés. Bobby entendait à peine le ronronnement du groupe électrogène apporté par la camionnette de l'identité judiciaire pour alimenter la scène en électricité. Apparemment, il avait un peu de marche en perspective. Il se gara dans un pré envahi de broussailles à côté de trois véhicules de patrouille, attrapa une lampe torche, du papier, un stylo, et, à la réflexion, un blouson plus chaud. La nuit de novembre était fraîche, dans les 4-5 degrés, avec un léger brouillard givrant. Personne dans les parages, mais le faisceau de sa torche éclaira le passage ouvert par le piétinement des enquêteurs de la brigade criminelle arrivée avant lui. Ses palourdes faisaient un bruit mat sur le chemin. Il entendait encore le groupe électrogène, mais toujours pas de voix. Il se baissa pour passer sous des arbustes, sentit le sol devenir marécageux sous ses pieds, puis se raffermir. Il traversa une petite clairière, remarqua un tas d'ordures, du bois pourri, des briques, des seaux en plastique. Les dépôts sauvages étaient un problème depuis des années dans ce parc, mais ils se trouvaient en général près des clôtures. Là, c'était trop à l'intérieur. Probablement des rebuts de l'asile lui-même, ou peut-être d'un des chantiers récents. Vieux, nouveau, impossible à dire sous cette lumière. Le bruit s'amplifia, le ronron du groupe électrogène se mua en un rugissement sourd. Bobby rentra la tête dans le col de son blouson pour se protéger les oreilles. Après 10 ans passés dans la police, il avait vu son lot de scènes de crime. Il en connaissait le bruit, il en connaissait l'odeur. Mais c'était sa première scène en tant qu'enquêteur à proprement parler. Il se dit que c'était pour ça que ça paraissait si différent. Puis il franchit une autre rangée d'arbres et s'arrêta net. Des gens. Partout. La plupart en civil, probablement 15, 18 enquêteurs et facilement une douzaine d'agents en tenue. Et puis il y avait les types grisonnants en épais par-dessus de laine. Des officiers supérieurs que Bobby avait déjà croisés pour la plupart lors des pots de départ à la retraite d'autres gros bonnets. Il repéra un photographe, 4 techniciens de scène de crime. Et enfin, une seule femme. Elle était substitut du procureur, s'il avait bonne mémoire. Beaucoup de monde, surtout au vu de la politique de longue date de Boston qui exigeait un rapport écrit de quiconque pénétrait sur une scène de crime. La chose avait tendance à tenir à distance les policiers badauds et, plus important encore, les grands pontes. Mais cette nuit, tout le monde était là, à décrire de petits cercles sous la lumière vive des projecteurs, à battre la semelle pour se réchauffer. L'épicentre des opérations semblait être un auvent bleu érigé vers le fond de la clairière. Mais de là où il était, Bobby ne voyait toujours aucun signe de vestige ou de trace d'une scène de crime, même à l'abri de la toile protectrice. Il voyait un pré, une tente et beaucoup d'enquêteurs très calmes. Ça lui donnait la chair de poule. Un bruissement sur sa gauche. Bobby se retourna et vit 2 personnes entrer dans la clairière par un autre chemin. Une femme d'âge moyen vêtue d'une combinaison en taille-vec ouvrait la marche, suivie d'un homme plus jeune, son assistant. Bobby la reconnut immédiatement, Christy Callahan, du service de médecine légale. Callahan était l'anthropologue judiciaire désigné dans l'affaire. Et merde. Encore du mouvement, Didi avait surgi comme par magie de sous l'auvent bleu. Le regard de Bobby passa de ses traits pâles soigneusement composés à sa tenue en taille-vec, puis à l'obscurité insondable derrière elle. « Et merde » murmura-t-il à nouveau, mais il était trop tard. Didi se dirigea droit vers lui. « Merci d'être venu, » dit-elle. Ils eurent un instant de gêne réciproque, chacun essayant de déterminer s'il devait se serrer la main, se faire la bise, quelque chose. Didi croisa finalement les mains dans son dos et le problème fut réglé. Il serait de simples relations professionnelles. « Je n'aurais pas voulu décevoir un commandant, » railla Bobby. Didi lui lança un sourire crispé devant cette allusion à son nouveau grade, mais ne commenta pas. Ce n'était ni le moment ni le lieu. « Le photographe a déjà pris une première série de clichés, » dit-elle brusquement. « On attend que le vidéaste boucle, ensuite tu pourras descendre. »« Descendre ?»« La scène est souterraine, l'entrée se trouve sous l'auvent. »« Ne t'inquiète pas, on a mis une échelle, c'est facile d'accès. » Bobby prit un instant pour digérer l'information. « Quelle taille ?»« La cavité fait environ 2 mètres sur 3. On limite à 3 personnes, sinon on ne peut plus bouger. »« Qui est la découverte ?»« Des gosses. »
Ils sont tombés dessus hier soir, j'imagine, pendant qu'ils étaient occupés à picoler ou autre passe-temps. Ils ont trouvé ça suffisamment marrant pour revenir ce soir avec une torche. On ne les y reprendra plus.
Ils sont encore dans le coin ?
Non, les ambulanciers leur ont donné des calmants et les ont emmenés. C'est aussi bien. Ils ne nous servaient à rien.
Un paquet d'enquêteurs ? Commenta Bobby en regardant autour d'eux.
Ouais.
Le responsable d'enquête ?
J'ai tiré le gros lot, dit-elle bravement.
Désolée, Didi.
Elle grimaça, le visage plus sombre maintenant qu'ils n'étaient plus que tous les deux.
Non,
sans blague. Quelqu'un se racla la gorge derrière eux. Commandant ? Le vidéaste avait émergé de sous l'auvent et il attendait que Didi s'occupe de lui. On refilmera de temps en temps, lui dit Didi en se retournant vers l'attroupement. Environ une fois par heure pour garder la continuité. Vous pouvez avaler un café si vous voulez, il y a un thermos dans la camionnette. Mais ne vous éloignez pas, Gino, on ne sait jamais. L'agent acquiesça, puis se dirigea vers la camionnette où le groupe électrogène vrombissait. « Ok, Bobby, à nous. » Elle s'éloigna sans attendre de voir s'il suivrait. Sous l'auvent bleu, Bobby trouva une pile de combinaisons en Tyvek, ainsi que des couvre-chaussures et des charlottes. Il enfila la tenue en papier par-dessus ses vêtements, tandis que Didi changeait ses couvre-chaussures sales pour une nouvelle paire. Il y avait deux masques à gaz posés à côté des combinaisons. Didi n'en prit pas, donc lui non plus. « Je passe la première, » dit-elle. « Je crierai « c'est bon » quand j'arriverai en bas, et ce sera ton tour. » Elle désignait le fond de l'auvent, et Bobby aperçut la faible lueur qui montait d'un trou dans le sol d'environ 60 cm sur 60. Le sommet d'une échelle métallique dépassait du rebord terreux. Cela lui donna une étrange impression de déjà-vu, comme s'il avait dû savoir exactement ce qu'il avait sous les yeux. Et puis, en un éclair, il comprit. Il sut pourquoi Didi l'avait appelé. Et il sut ce qu'il allait voir en descendant dans la fosse. Didi effleura son épaule du bout des doigts. Le contact le surprit et il sursauta. Elle recula immédiatement. Ses yeux bleus étaient graves, trop grands pour son visage pâle. « À toute, Bobby, » dit-elle doucement. Elle disparut le long de l'échelle. Deux secondes plus tard, il entendit à nouveau sa voix.
« Tout bon ?»
Il descendit dans l'abîme.